Daniel Guilly est accompagnateur en montagne depuis 45 ans. Il exerce en Vallée d'Or, entre autres, mais pas seulement. Il navigue en réalité dans toutes les Pyrénées et même parfois dans d'autres pays, à travers le monde. Sa vie, emmener dans ces montagnes toutes les personnes désireuses de découvrir et mieux connaître le milieu montagnard. Aujourd'hui, il vous embarque, vous, auditeurs de Radio Présence, à la découverte de la vallée du Moudang.
Allez, c'est parti pour le Moudang.
Bonjour Daniel Guilly.
Bonjour Anne-Rose.
Est-ce qu'on peut dire, Daniel, que vous êtes un enfant du pays ?
Alors, moi, je ne suis pas né là, mais j'y suis arrivé, j'avais 9 ans, 1971. Et en fait, bon, voilà, je ne suis pas né ici, mais je suis, je ne sais pas comment dire, mais imprégné de ce territoire et de montagne, d'une manière qui me permet de vivre une vie que j'ai choisie, quoi, tout simplement.
Alors, nous sommes là dans la vallée du Moudang, hein, c'est sur la commune de Trameseg. On est parti de bonne heure ce matin, et quand on a pris ce sentier qui mène jusqu'aux granges du Moudang, là où on est installé, dans ce hameau de granges que vous allez nous présenter dans quelques instants. Au moment où on est parti, il y avait un panneau, chemin de liberté. Et vous m'avez dit tout de suite d'entrée de jeu, moi je dirais plutôt que c'est un chemin d'histoire. Alors qu'est-ce que c'est que ce chemin d'histoire du Moudang ?
Bon, en fait, chemin de la liberté, chemin d'histoire, ça veut dire à peu près la même chose, puisque ce chemin, comme tant d'autres dans nos montagnes, a été emprunté par des gens qui fuyaient soit du versant espagnol vers le versant français ou l'inverse. Donc, chemin de liberté, mais chemin d'histoire, bien avant cette histoire-là aussi, puisque depuis de très nombreuses générations, les gens de Trameseg sont venus ici au Moudang pour leurs animaux, pour pouvoir continuer leur vie d'éleveur, tout simplement.
C'est ça qu'on appelait le pastoralisme, ou qu'on appelle toujours le pastoralisme ?
C'est ça qu'on appelle le pastoralisme, et qui est encore très présent dans nos montagnes, et qui a une place plus que importante, puisque ce pastoralisme est lié à des savoir-être, des savoir-faire, à des traditions, et aussi et surtout à... malgré ce que pourront en dire beaucoup, eh bien, à un entretien du milieu, des milieux, et surtout quelque chose qui va énormément favoriser la biodiversité.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer justement ça ? Comment ce pastoralisme rend service à la nature ?
Alors, eh bien, parce que d'abord, il débarrasse beaucoup d'endroits de montagne de plantes invasives, comme les genévriers, les rhododendrons, les genêts à balai, autant que faire se peut. C'est pas évident, bien sûr que non. Mais malgré tout, s'il n'y a pas de pression pastorale quelque part, eh bien cet embroussaillement se fait de plus en plus présent et de plus en plus rapide, quoi.
Alors pour que le pastoralisme soit vraiment réel, effectif, il faut que tous les ans, les troupeaux montent en estive. Donc ça veut dire que là, autour de nous, là autour de ces granges du Moudang, ce hameau de granges, hein, il y a une vingtaine de granges à peu près, on devrait voir des troupeaux là fin juillet.
Alors on devrait les voir, mais comme vous le savez, eh bien il fait très chaud partout. Ici, ça fait pas exception. Et les bêtes sont beaucoup plus haut en altitude. Elles sont allées chercher de la fraîcheur et surtout de l'herbe à manger. Parce qu'ici, bien, l'herbe à l'altitude des granges, un petit peu plus de 1500 mètres, bien, l'herbe, c'est de la paille, quoi. Et donc, elle n'est absolument pas très bonne à manger. Et elles sont allées plus haut en altitude avec l'espoir de pouvoir trouver des places où l'herbe sera encore de bonne qualité.
Mais alors, il y a combien de bêtes aujourd'hui dans la vallée du Moudang ?
Alors, cet été... ce printemps plutôt, au début du mois de juin, il est monté vers le Moudang 3700 bêtes.
Alors ce pastoralisme, il ne se vit plus comme autrefois, c'est-à-dire que là, avec ces plus de 3000 bêtes, il n'y a pas un berger ou deux bergers avec leurs chiens, il n'y a plus de bergers. Ces granges-là que nous voyons autour de nous, elles ne sont plus utilisées par les bergers qui viennent veiller sur les troupeaux.
Alors les granges ne sont plus utilisées à des fins pastorales, mais les éleveurs montent au moins une fois par semaine. D'accord. Il y a eu un berger pendant de nombreuses années. Et bon, voilà, il n'y a plus de berger pour le moment, mais je dis bien pour le moment, parce que peut-être qu'il faudra en remettre un de ces moments. Si jamais la prédation, par exemple, se refait beaucoup plus présente, à ce moment-là, il faudra bien remettre en place un gardiennage, quoi.
Alors, quand vous parlez de prédation, vous évoquez l'ours, le loup ?
L'ours et le loup, forcément. Parce que, bon, le loup...
Ils sont présents ici ou...
Le loup est de passage, quoi. On sait qu'il est passé par là. On l'a vu des traces il y a quelques années. Et l'ours, lui, par contre, peut être beaucoup plus près, beaucoup plus présent. Mais, bon, voilà, on se rend compte aussi que le nombre d'ours augmentant, on n'a pas non plus forcément beaucoup plus de prédation. Pour le moment, en tout cas. Alors, tant mieux. Ça veut dire que les méthodes de garde, malgré tout, sont efficaces. Mais, ben voilà, à garder en observation, toujours, toujours.
Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien, en particulier pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément le milieu de la montagne, pourquoi ce pastoralisme, puisqu'on voit bien qu'il n'est pas si, il n'est pas devenu si évident que ça, pourquoi il est tout le temps, toujours nécessaire?
Alors, ben, cette année est très particulière et nous montre bien à quel point il est important de monter les bêtes en montagne. Depuis de nombreux siècles, c'est pas d'aujourd'hui, les hommes et les femmes de ces montagnes ont compris qu'il était important pour la survie de leur troupeau d'utiliser la totalité de la ressource fourragère, c'est-à-dire l'herbage qui va pousser dans les fonds de vallée, l'herbage qui pousse en moyenne altitude, c'est-à-dire aux environs, comme là, à peu près de 1500 mètres, et tout l'herbage qui pousse au-delà, aux environs même, pourquoi pas, de 2800 mètres d'altitude. Donc, l'intelligence des peuples montagnards, qui a été ici dans les Pyrénées ou ailleurs, dans les Alpes et dans d'autres massifs de montagne, et même dans d'autres pays, bien sûr, ça a été de voir que, en fonction du moment de l'année, il était important de pouvoir avoir les bêtes en bas de la vallée à la sortie de l'hiver, une petite partie du printemps, et vers la fin du printemps, monter vers la moyenne altitude, voire la haute montagne, et laisser les prairies basses, les prairies de la basse vallée, pour être à ce moment-là exploitées sous forme de foin, qui va nourrir les bêtes ensuite pendant l'hiver. Et donc, jusqu'à présent, eh bien, on a pu garder les bêtes en montagne 4 mois, même quelques fois plus, en fonction des années. On espère quand même qu'il va se remettre à pleuvoir pour que l'herbe, même d'altitude, puisse repousser, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Bon, espérons que ça vienne. Mais en tout cas, derrière tout ça, de garder présent au cœur de ces montagnes, quelque chose vraiment, vraiment de très important, relié à l'histoire des peuples montagnards.
Alors donc, ces granges qui sont autour de nous, elles sont la mémoire hein, de ces périodes-là. Il y a non loin de là, et d'ailleurs, peut-être que les auditeurs l'entendent un petit peu comme une musique, comme une petite ritournelle en fond d'interview, il y a une source, pas n'importe quelle source. D'ailleurs, on a vu en arrivant, en approchant de ce hameau de grange, que le cours d'eau n'était plus de la même couleur, il était presque ocre, presque rouge.
Alors en fait, ici au Moudang, comme dans pas mal d'endroits des Pyrénées, mais ici au Moudang particulièrement, il y a 4 sources ferrugineuses, dont la fameuse source de la reine, à laquelle aucune reine n'est jamais venue, mais en tout cas elle s'est appelée comme ça. Elle a même été commercialisée à un moment donné, cette eau mise en bouteille et commercialisée pour soigner les problématiques d'anémie ou de chloroanémie. Et donc, ici, dans ces montagnes proches de la frontière avec l'Aragon, le fer est présent sur une grande quantité de massifs. Et l'exploitation de ce fer a aussi existé ici au Moudang. Il y a eu de l'extraction, mais il y a surtout eu, ici au Moudang, une histoire reliée à des mines aragonaises, à des mines espagnoles, qui étaient exploitées pas très loin derrière la frontière et dont on transportait le minerai par l'intermédiaire d'un téléphérique d'une bonne dizaine de kilomètres pour redescendre le minerai au pont du Moudang.
Pourquoi on ne pouvait pas passer par la route? Le tunnel d'Aragnouette n'était pas encore créé, mais côté espagnol, il y avait des routes.
Exploitation des mines à partir des années 1850-60. Arrêt de l'exploitation 1953 par déraillement d'un pylône d'angle sur le téléphérique du Moudang. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas utiliser la voie espagnole? Tout simplement parce que les voies de communication sur le versant espagnol étaient quasi inexistantes et surtout largement insuffisantes pour pouvoir imaginer le transport du minerai par voie routière en tout cas.
Donc le minerai passait là, juste derrière nous, par voie téléphérique, arrivait en bas au niveau du pont de Moudang et après était encore acheminé un peu plus loin avec des charrettes.
Avec des charrettes qui descendaient ce minerai vers Arro, vers la gare d'Arro, ouais. Où ce minerai était ensuite chargé dans des trains, qui l'amenaient ensuite vers Santander au Pays Basque.
Ça retournait en Espagne.
Ça repartait en Espagne, voilà. Dans une zone industrialisée de l'Espagne, qui en est toujours d'ailleurs, qui est Santander. Ce minerai était aussi un petit peu utilisé en Vallée d'Or. Il y avait, là où se trouve l'actuelle centrale électrique de Saint-Lary, des forges. À cette époque-là, il y avait aussi des forges à Rebouc, à l'entrée de la vallée, qui utilisaient, elles aussi, une partie de ce minerai, mais en petite quantité, vraiment.
Donc ce minerai, il a aussi permis une collaboration d'ouvriers français et espagnols.
Français, espagnols et d'autres pays aussi, puisque à l'époque de ces grands chantiers, eh bien, on commençait à venir vers nos montagnes des gens même d'Italie. Et donc, tout ça était générateur de travail, oui. D'emploi. Et puis, a amené aussi dans nos vallées, eh bien, une démographie qui a été ensuite assez importante, qui a un petit peu diminué par la suite, mais qui, bien entendu, continue aujourd'hui d'exister. Pour d'autres raisons encore, qui sont touristico, presque on pourrait dire montagne-refuge par rapport à tout ce qu'on vit en termes de chaleur et tout ça. Les gens sentent le besoin de monter en altitude pour venir chercher du frais, quoi.
Pour terminer sur la source, aujourd'hui, cette source, on voit quelques promeneurs, d'ailleurs c'est ce que nous avons fait aussi, vous et moi, on est montés jusqu'à la source de la Reine, qui porte ce nom, on ne sait pas trop pourquoi finalement, on l'a consommée, elle a un goût un peu de métal, hein, faut bien le dire, mais des personnes viennent vraiment pour découvrir cette source, montent ici pour la source.
Les gens montent pour la source parce que, ben, ma foi, elle a cette particularité d'être chargée en fer et d'avoir cette couleur un peu rougeâtre, très très particulière. Alors pourquoi source de la Reine? Parce que le monsieur, le privé qui l'a commercialisé, l'avait appelé la reine ferrugineuse.
On fait une petite pause pour se désaltérer à une source non ferrugineuse celle-ci, et après un petit cluquette, comprendre une petite sieste, on reprend la conversation avec Daniel Guilly. Alors pour monter jusqu'à ces granges, on a parcouru d'abord un sentier, une voie forestière plutôt assez large, plutôt encaissée aussi. Et puis tout d'un coup, on est arrivé devant ce hameau de grange. Tout d'un coup, le paysage s'est ouvert. Alors, est-ce que vous pourriez, Daniel, faire un petit peu la carte postale de cette vallée du Moudang pour que les auditeurs comprennent bien aussi ce qui se joue quand on chemine comme ça à travers le Moudang, ce qu'on peut découvrir de cette faune et de cette flore qui change d'un bout à l'autre.
Alors on part au pont du Moudang à 1100 mètres d'altitude, on arrive à un peu plus de 1500 mètres, ce qui représente pas beaucoup, beaucoup de dénivelé. Mais en traversant toute la strate, ce qu'on appelle l'étage montagnard, c'est-à-dire toute la strate de la forêt de montagne. Ouais. Ça commence par beaucoup de feuillus, mélangés de quelques résineux, et puis plus on monte, et plus les résineux seront présents. Donc on monte là, dans une forêt de hêtres, absolument somptueuse en automne, évidemment, et au printemps aussi, quand l'enfeuillement arrive.
Je vous demande pas s'il y a des champignons à l'automne.
Ça dépend des années, bien sûr, et cette année, c'est mal parti. Et donc, une fois passé comme des gorges, une vallée en forme de V, creusée par des torrents énormes de fonte glaciaire, on arrive ensuite sur un replat, un grand replat, un immense replat, sur lequel, d'ailleurs, tout au bout, ont été construites les granges du Moudang, et qui a dû, à une certaine époque, qui doit remonter à peu près à 15-20 000 ans, a dû être un lac. Un lac qui s'est comblé petit à petit par l'intermédiaire de toute la matière qui est descendue de l'altitude, sous la forme de torrents de fonte glaciaire, sous la forme d'avalanches de neige, de pluies torrentielles, enfin, tout ça a fini par boucher cet espace lacustre qu'on ne peut pas dire qu'autrement. Tout simplement parce que c'est plat. Et les plats en montagne, bien souvent avant, eh bien, c'était des zones lacustres, quoi. Et donc, ces granges sont sous forme d'habitats groupés. Ce sont des bâtisses qui sont serrées les unes contre les autres et qui sont situées à un endroit de la vallée où le risque d'avalanche est le plus minime possible. Avec un peu de soleil, bien sûr, mais surtout à l'abri des avalanches, car le chemin qui monte aux granges du Moudang est un chemin compliqué, très compliqué, l'hiver.
Toujours aujourd'hui, en 2026, y a la neige, enfin, les quantités de neige peuvent faire que eh bien, c'est compliqué.
À voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, l'hiver dernier, le danger d'avalanche était très présent et on ne pouvait pas décemment monter au Moudang n'importe quand dans l'hiver.
Vous-même qui connaissez par cœur ce sentier, vous ne venez pas l'hiver quand il y a de la neige?
Jamais. Ça, c'est un enseignement qui nous arrive des anciens. Hein. Et on a des itinéraires, des vallées, ici en Vallée d'Or et dans d'autres régions, quoi, dans d'autres parties du territoire pyrénéen, où on sait qu'il est très dangereux de s'aventurer l'hiver, quoi.
Alors, on a parlé des arbres. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la flore, des fleurs qu'on peut trouver ici. Moi, honnêtement, je m'attendais à trouver des parterres de rhododendrons. Et puis, il n'y en a pas. Alors, vous allez peut-être m'expliquer pourquoi. Puis, quelles fleurs particulières on peut trouver? Et puis, peut-être la faune aussi. Quels animaux courent, gambadent par ici, mis à part les bêtes qui sont en estive?
Alors, on peut trouver de l'isard. On a d'ailleurs eu la chance d'en observer deux. Au moins ce matin. Il peut y avoir des marmottes. On peut y trouver bien sûr aussi tous les grands rapaces. On a eu la chance aussi d'observer le gypaète et le vautour. On peut y trouver l'aigle royal. Il y a pas mal de faucons, des faucons cresserelles en particulier. Il y a aussi des serpents, il y a des vipères, des couleuvres qui vivent là aussi. Et puis, il peut y avoir aussi, pourquoi pas, du sanglier.
Il y a du sanglier à cette altitude?
Bien sûr, le sanglier peut monter très haut et retourner les terrains dans lesquels il gravite pour pouvoir retrouver des vers ou bien des bulbes de plantes comme les conopodes, par exemple, les noisettes de terre, qui sont une de leurs nourritures favorites, quoi.
Voilà. Au niveau des fleurs, du coup?
Alors, au niveau des fleurs, bien, dans la partie plutôt forestière, on va trouver dès le printemps ce qu'on va appeler des anémones hépatiques, des anémones sylvie. Ça, c'est vraiment le parterre de partir sous supraforestier, quoi. Ensuite, en montant, bien, on va trouver, pourquoi pas, des gentianes. Alors, des petites, des gentianes bleues. On peut trouver, bien sûr, aussi le rhododendron en très, très grande quantité. Et pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas cette année? Eh bien, tout simplement parce qu'il a fait trop chaud, trop tôt.
Alors, les auditeurs ont certainement remarqué depuis un peu plus de 10 minutes qu'on est ensemble, Daniel. Vous êtes accompagnateur en montagne, c'est écrit sur votre t-shirt vert. Vous êtes plus qu'un accompagnateur en montagne. Vous nous parlez de faune, de flore, de géologie. Qu'est-ce que c'est qu'être accompagnateur en montagne, Daniel?
Ben, être accompagnateur en montagne, c'est un peu... Lily, viens là.
Lily, c'est le chien, je le dis pour les auditeurs.
Et être accompagnateur en montagne, c'est être un passeur ou une passeuse, parce qu'il y a aussi des accompagnatrices en montagne, beaucoup. Et donc, être passeur, ça veut dire avoir appris et continuer à apprendre de ce territoire et n'avoir de cesse que de faire passer aux personnes désireuses d'apprendre ce territoire ce qu'il renferme de richesse, de fragilité, d'histoire, de géologie. De tellement, mais de tellement de thématiques diverses et variées, et ça pour tous les âges, quoi. Et donc, être accompagnateur en montagne, ça veut dire continuer aussi d'être curieux.
Et ça veut dire, Daniel, que vous apprenez encore des choses sur la vallée du Moudang ou sur la montagne en général, sur ces Pyrénées. Vous avez l'air de connaître le moindre recoin, la moindre feuille de fleurs qui bouge. Vous avez encore des choses à apprendre, vous apprenez encore des choses. Est-ce que vous êtes encore émerveillé par la montagne?
J'aurais tendance à dire que si un jour l'émerveillement me quitte, alors je poserai le sac.
Vous n'êtes pas prêt de le poser? Alors, je vous laisse souffler un peu.
Tout va bien.
J'ai remarqué aussi, Daniel, que vous êtes un tantinet, pas agacé, c'est peut-être pas le mot, mais en tous les cas, pour vous, il y a une grande différence entre venir vivre la montagne et venir faire de la montagne. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça?
Chacun est libre. Mais je vois poindre depuis un paquet d'années maintenant des phénomènes de mode, quoi. Des phénomènes de mode qui amènent les gens à parcourir ces montagnes, mais sans se rappeler de comment elles s'appellent, quoi. Et sans justement prendre ce temps de l'émerveillement, ou bien, pour beaucoup, être systématiquement et uniquement dans une notion de performance, quoi. Mais en oubliant où ils sont, quoi. En étant plus curieux, et, ou en tout cas pas suffisamment, quoi.
C'est pour ça que vous avez voulu être accompagnateur en montagne.
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. J'ai eu la chance personnellement de rencontrer des gens qui étaient dans cette manière d'être et de vivre, hein, et qui m'ont donné le goût. Qui m'ont donné le goût, d'une certaine manière. Et je me suis toujours dit que, quelque part, il était important de garder ça en soi. De garder ça en soi, et puis patiemment de faire en sorte à ce que les gens ressentent petit à petit l'envie, le besoin et la curiosité d'être vraiment là, quoi. Je crois que c'est surtout une question d'Internet. Une question d'Internet. Avec ces téléphones portables, on a l'impression...
Vous en avez un, vos téléphones portables?
Parce que... je vais expliquer. Parce qu'un jour, ma mère me l'a collé en la poche. Sinon, pareil, j'en aurais pas, quoi. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, on l'a aussi par obligation de moyens au niveau de la sécurité. Bon, c'est...
Moi, personnellement, j'étais contente que vous ayez un portable. Ça m'a permis de prendre contact avec vous et de découvrir aujourd'hui plein de choses sur le Mudang.
On est d'accord, Odite. On est d'accord. Hein. On est d'accord.
Mais plus sérieusement, ce que vous pointez du doigt, ce n'est pas tout à fait ça.
Non, ce n'est pas tout à fait ça, non. C'est surtout je vois trop de gens le nez sur leur téléphone aujourd'hui, quoi. Beaucoup trop de monde le nez sur le téléphone, avec des applis qui donnent l'impression, mais de tout savoir. Et quand je vois la patience dans ma vie qu'il a fallu pour emmagasiner tant d'informations.
Et vous les avez emmagasinées comment? En allant vous-même sur le terrain, en vous renseignant auprès des anciens, en lisant?
Tout ça.
Tout ça en même temps.
Tout ça en même temps. Tout ça en même temps. En passant beaucoup de temps avec les anciens, ça c'est sûr. Et en allant avec eux en montagne. Après, en étant aussi lecteur depuis toujours de tout ce qui est la bibliographie pyrénéenne et pyrénéiste, quoi. Et puis ensuite, en allant aussi passer du temps sur le terrain, en particulier pour la botanique, un livre à la main, une loupe à la main, et puis... avoir la patience. Non pas tant de demander au téléphone en 3 secondes et demie comment s'appelle la fleur, quelle famille, machin, mais de prendre le temps d'observer la fleur, de regarder les feuilles. Et on revient toujours à cette notion du prendre le temps.
Voilà, alors ça, j'ai remarqué que vous avez un rapport au temps un peu particulier. Pour vous, prendre le temps, c'est presque une leçon quotidienne, une leçon de vie pour chaque jour.
Ouais, c'est déjà marcher lentement, marcher tranquillement, marcher à un rythme qui permet...
Oui, alors que dans notre imaginaire, on se dit qu'un bon montagnard, il y va, quoi. Il fonce, il carbure et puis il s'arrête à la fin pour casse-croûter, mais tant qu'il n'a pas atteint le but, il ne s'arrête pas pour casse-croûter et il fonce. Et en fait, vous m'avez montré ce matin, depuis 7 heures ce matin, que ce n'est pas ça un bon montagnard.
Alors il est capable aussi, il est capable aussi, quand il a besoin, je suis capable de monter... à des rythmes évidemment beaucoup plus effrénés, il n'y a pas le problème. Mais il faut que j'en ai besoin. Si j'en ai pas besoin, alors je prends le temps.
On va terminer, Daniel, avec ma dernière question. C'est que je vous ai entendu tout à l'heure, on a croisé des personnes qui vous ont interpellé pour vous poser des questions, et puis vous leur avez dit il faut savoir lire la montagne. Alors aujourd'hui, quand vous lisez la montagne, quand vous lisez les Pyrénées, quand vous lisez en particulier cette vallée du Mudang, qu'est-ce que vous voyez?
Que ce soit dans la vallée du Mudang ou dans n'importe quel endroit de ces montagnes, il y a une chose qui est une merveilleuse certitude, quoi. C'est que c'est pas demain la veille que tout ça va bouger, quoi. Alors, bien entendu, ce qu'il y a en surface, ça risque bien. Et on voit bien cet été à quel point l'herbage a jauni très vite, à quel point les sources, pas mal de ces sources se sont taries. Ce que je vois dans cette lecture de la montagne, quand je dis lire la montagne, en fait, c'est en particulier par rapport à, ma, à la façon qu'on va avoir, aux possibilités qu'on va avoir de s'y déplacer, en utilisant, dans la plupart des cas, les chemins des animaux. Parce que ce qu'on appelle un chemin de randonnée aujourd'hui, au départ, c'est un chemin de brebis ou de vaches. Donc, on en a détourné l'utilisation première. Bref. En tout cas, moi, quand je lis un paysage de montagne, je regarde toujours par où je peux passer pour ne pas me fatiguer de trop. Anticiper les années futures ne tient pas seulement et pas uniquement à la lecture de la montagne. L'anticipation des temps futurs, elle est plutôt dans une sagesse à retrouver. On discutait tout à l'heure avec une dame qui nous disait que dans certaines stations de ski, on continuait de construire des remontées mécaniques. Alors d'aujourd'hui, est-ce que c'est bien raisonnable, quoi ? Voilà. Anticiper les années qui viennent, j'aurais tendance à dire qu'il est temps qu'on reparle aux gens de ce qu'est la montagne, non pas de ce que sont les activités outdoor, comme on dit, hein, mais de ce que c'est que la montagne. Parce que la montagne, ben, la montagne, c'est pas des activités à pratiquer, quoi. Enfin, pas pour moi, en tout cas. Automatiquement, il me semble que quand on est dans l'apprentissage, dans l'éducation, que ce soit de la montagne, de la ville, de n'importe quel milieu dans lequel l'humain vit, s'il sait quoi respecter, eh bien, il le fera. Mais s'il ne sait pas quoi respecter ou comment, eh bien, il ne le fera pas. Et on pourra nous parler encore pendant 50 ans du respect de l'environnement, ça aura du mal à venir. Et surtout, bien garder en mémoire que les Pyrénées, il n'y a que ça de vrai.
Sur les sentiers du Moudon, du Youmajou à l'aurore, j'ai appris le beau métier de berger en vallée d'Aure. Et le lever du soleil sur les neiges de novembre m'ont appris comment t'aimer aux Pyrénées.